et bienvenue et heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle saison de notre émission L'Onde des Possibles, tous les premiers jeudis du mois à 19h, rediffusé le lundi suivant et le mercredi qui suit. Voilà pour cette émission que vous retrouvez bien sûr en podcast sur notre site www.audioradio.fr. Pour rappel, c'est une émission qui explore le champ des possibles en termes de transition écologique, qui incite à inventer ou réinventer en vue d'un plus grand respect de notre planète ou de notre écosystème. Et si vous n'étiez pas encore convaincu par la nécessité de revoir nos modes de fonctionnement, encore si ça vous semble trop abstrait, dur, mais que tout de même vous posez quelques questions, restez avec nous sur cette émission L'Onde des Possibles, puisque pour ce mois de septembre, on vous propose de vous donner quelques éléments de connaissance pour vous donner envie d'adopter une consommation durable et zéro déchet. Et pour cela, avec moi en plateau, on reçoit Fanny Thibert, chargée de communication quartier zéro déchet. Bonjour à vous, Fanny.
Bonjour.
Et accompagnée de Silem Belmar Azib, volontaire en service civique à la Maison de la Nature et de l'Environnement Bordeaux-Aquitaine, ce depuis quelques semaines, je crois. Bonjour à vous.
Bonjour.
Bonjour. Alors avec vous, on va parler notamment de l'action que vous menez sur le quartier Bastide-Benauge, qui s'appelle donc une action zéro déchet à l'échelle donc de ce quartier. Pendant plusieurs mois, vous avez accompagné des habitants, commerçants, professionnels à réduire d'au moins 10% leur production de déchets grâce à des actions de sensibilisation et de prévention. Un projet qui est soutenu, on le rappelle, par Bordeaux Métropole, l'ADEME et la région Nouvelle-Aquitaine. Alors, si vous le voulez bien, Fanny, est-ce que vous déjà nous présentez la Maison de la Nature et de l'Environnement ?
Tout à
Bordeaux-Aquitaine.
Du coup, la Maison de la Nature et de l'Environnement est la structure qui pilote en fait le projet Quartier Zéro Déchet à Bastide-Benauge. C'est un peu une institution à Bordeaux parce qu'elle a été créée en 1983 et qu'elle regroupe aujourd'hui plus de 50 associations qui ont trait à l'écologie, donc dans tous ses aspects, la mobilité, le climat ou la biodiversité par exemple. Et donc, la Maison de la Nature et de l'Environnement est implantée rue de Tauziat, à Bordeaux.
Donc la fonction même de la Maison de la Nature et de l'Environnement, c'est de soutenir en fait, toutes ces associations qui œuvrent pour l'écologie.
Tout à fait. Donc, c'est un rassemblement d'associations, donc à la fois autour d'un habitat, d'un lieu en fait qui est la structure qui est rue de Tauziat, et puis sur des projets communs comme ce quartier zéro déchet qui est en fait l'un des premiers projets menés tous ensemble. Donc voilà, c'est une expérimentation aussi pour nous dans notre forme d'organisation.
Alors justement, ça tombe bien, Fanny Thibert, parce que vous êtes, vous, salariée pour ce projet quartier zéro déchet. Alors vous allez nous rappeler le contexte, comment ça s'est créé, comment est venue cette idée de cette expérimentation. C'est une expérimentation encore.
Tout à fait. En fait, ça a débuté en novembre 2018 avec un festival intitulé Zéro déchet, zéro gaspille, organisé entre la Maison de la Nature et de l'Environnement et Bordeaux Métropole, et qui a eu un succès très important, puisqu'il y a eu 6600 personnes en deux jours au hangar 14, du coup, à Bordeaux. Et donc, fort de ce succès, en fait, la Maison de la Nature et de l'Environnement a proposé en fait, qu'il y ait une expérimentation sur un quartier. Et ça a eu écho. Et au final, les quartiers de Bastide et Benauge ont été sélectionnés.
Alors, pourquoi, justement ? Pourquoi ces quartiers-là ?
Alors, en fait, ils sont assez intéressants parce qu'ils sont complémentaires. Il y a à la fois de l'habitat individuel et aussi collectif. Et puis, la zone de collecte était plutôt représentative, en fait, et pouvait permettre de mener une expérimentation.
Donc, si je fais un récap, ça a commencé en 2019, c'est ça, ce projet ?
Alors là, sur l'application du projet, c'est depuis novembre 2019. Et l'idée, au départ, c'était que ça aille jusqu'à septembre 2020. Évidemment, avec la crise sanitaire, ça a un petit peu bousculé notre agenda parce qu'on organise beaucoup d'événementiels. Donc, pour l'instant, on part sur un report du projet jusqu'en janvier 2021.
Alors, si vous voulez bien, on va parler de ce projet. En quoi ça consiste ? Qu'est-ce que vous faites régulièrement et qu'est-ce que vous demandez aux habitants ?
Alors, nous, l'idée, en fait, c'est de travailler collectivement, déjà avec les associations qui sont sur place et puis avec les structures membres qui nous ont rejoints sur ce projet. Donc, on a à peu près 25 structures qui proposent soit des animations, des stands informatifs, des ateliers couture ou de cuisine et puis aussi du porte-à-porte sur le quartier. Et donc l'idée, c'est de travailler de concert et de proposer des solutions pour que les habitants puissent aller vers le zéro déchet.
Solutions vers le zéro déchet. Alors, quand je parle d'expérimentation, c'est-à-dire que là, effectivement, vous avez fait un programme, un plan avec des sensibilisations, des animations. Mais quand même, il y a une espèce d'étude scientifique pour voir si ça marche, tout ça, c'est ça, hein ?
Oui, en fait, l'idée, en fait, c'est vraiment une expérimentation de terrain, comme ça se fait beaucoup sur la question des déchets ou de l'écologie au niveau national. On veut montrer, en fait, que c'est possible dans des quartiers un peu mixtes, et puis analyser nos résultats. Donc, c'est ce qui est prévu en fin de projet. Et l'idée, c'est de pouvoir essaimer si ça fonctionne bien.
Est-ce que vous êtes vous avez commencé à analyser vos résultats là ?
Alors, on a des premiers chiffres qui sont arrivés sur les tonnages de la collecte. Pour l'instant, on considère qu'ils sont pas encore analysables par rapport en fait au contexte si particulier. Et puis voilà, on voudrait avoir des chiffres qui soient significatifs sur un plus long terme. Donc ça se fera en fin de projet.
Oui, là, c'est effectivement pas de chance parce que avec donc cette crise sanitaire, est-ce que vous n'avez pas pu continuer vos sensibilisations, j'imagine ?
Alors forcément, en présentiel, non. Comme on a souhaité garder le contact avec les habitants, en fait, on a été assez actifs sur les réseaux sociaux. Donc nous, on est présents sur Facebook, Twitter et Instagram. Comme ça, on a tout le panel des réseaux sociaux. Et donc, on a proposé en fait des recettes et des astuces cuisine, fabrication de choses en couture, etc., ou de produits ménagers pour partager en fait nos astuces avec les habitants.
Alors, comment vous avez travaillé justement avec les habitants et pas que d'ailleurs, il y a aussi les commerçants. Siam, si vous, peut-être vous voulez intervenir aussi, il y a les professionnels qui travaillent sur le quartier, les commerçants. Comment concrètement ils ont été impliqués dans ce projet ? Comment ils l'ont vécu aussi ? Parce que c'est ça aussi, comment ils l'ont pris ce projet ?
Alors moi, je sais qu'avec mon collègue Paul, il y a quelques semaines, on est allé afficher justement pour l'après-midi zéro déchet qu'on a organisé le 26 août. Du coup, on a fait un tour des commerçants au niveau du quartier. Et c'est vrai que il y a déjà pas mal de commerçants qui entament déjà des démarches personnelles en fait au niveau de leur restaurant, comme le compostage ou l'utilisation de contenants en verre pour éviter d'utiliser des contenants jetables en fait. Et moi, je trouve qu'en général, ça a été plutôt bien accueilli. Il y a une grosse demande sur le quartier. Il y a pas mal de gérants qui nous ont signalé ça. Après, voilà. Enfin, je trouve que c'est plutôt bien accueilli en général et qu'il y a vraiment une demande en fait des commerçants.
Il y a une association membre du projet Zero Waste qui a proposé en fait une carte Google des commerçants engagés en fait. Donc ça permet à chacun de voir sur le quartier qui est favorable au vrac, à ce qu'on emporte nos propres emballages pour acheter des produits, etc. Donc ça, vous pouvez la consulter sur notre site internet monquartierzz.org. Et puis, en fait, en parallèle de ça, il y a un défi des pros, zéro déchet, qui est piloté par Ecologique, une association aussi membre du projet. Et donc, on a par exemple l'exemple de l'école de Condé, qui est une école de design sur le quartier, et qui s'est lancée dans ce défi et qui a deux salariés référents qui suivent les évolutions en la matière. Concrètement, c'est travailler avec le personnel d'entretien pour qu'il y ait une pesée des poubelles pour voir s'il y a une réduction de ce qui est produit. Et puis, comme on est dans une école artistique, réutiliser ce qui aurait été jeté autrement.
Très bien, oui. Donc ça, c'est un autre défi. Donc, je vous invite à venir reparler ou peut-être on invitera vos associations partenaires Effectivement, de mémoire, hein, on avait déjà parlé du lancement de ce projet zéro déchet sur ce quartier Bastide-Benauge. Donc l'ancien coordinateur était venu en parler. Et il était accompagné d'une commerçante fromagère, dont je ne me souviens plus exactement le nom de sa fromagerie, mais qui était très engagée, très impliquée. Et c'était vraiment pour elle hyper important cette démarche. Donc est-ce que vous... Un an après, vous commencez à voir, parce que c'est ça, c'est semer quelques petites graines, ça mûrit et finalement on change. Le but de cette émission aussi, c'est ça, hein, de semer quelques graines et vous en ferez ce que vous voudrez, voir comment elle évolue chez vous. En tout cas, je parle aux auditeurs, bien sûr. Et vous, est-ce que vous sentez les répercussions des changements là, des habitants, des commerçants, des professionnels?
Alors, on a toujours envie que ça aille plus vite, mais en fait, quand on analyse un petit peu, en fait, les choses évoluent assez rapidement. Par exemple, pour parler des commerçants, c'est vrai que les commerces totalement en vrac, à part les épiceries bio avant, sont arrivés finalement vers 2014 et pas avant. Et depuis, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup dans nos villes. Donc, on trouve ça intéressant. Oui, on a eu des évolutions. On a organisé un événement au Parc Pinson mercredi dernier avec une quinzaine de nos associations et ça a permis de rencontrer des habitants qui nous suivaient depuis quelque temps et qui avaient évolué dans leurs pratiques. On a créé un dépliant en fait qui permet à chacun de cocher en fait sur une liste les choses sur lesquelles ils se sont déjà engagés et ce qu'ils ont envie de faire par la suite. Et l'idée, c'est de pouvoir revenir sur ce document quelques mois après pour voir comment on a évolué.
Très bien. Alors peut-être déjà la première question qu'on peut se poser quand on va vers cette démarche du zéro déchet, en tout cas de réduire ses déchets, parce que le zéro déchet, ça va être compliqué quand même. Il ne faut pas non plus vous culpabiliser. Hein. On sait très bien qu'à ce jour, arriver à du zéro déchet, je ne sais pas si vous y arrivez, vous, hein, mais moi, je n'y arrive pas encore. Et notamment avec cette crise sanitaire qui nous amène encore à plus à consommer de plastique. Donc si vous souhaitez réduire vos déchets, déjà peut-être la première question, c'est pourquoi, répondez-nous, mais en fait, ça sert à quoi concrètement de réduire ses déchets? Ça paraît très bête comme question, mais je crois qu'on se la pose encore.
Alors moi, je pense que c'est important parce que moi, personnellement, j'ai encore ce truc qui fait que quand je jette un déchet dans ma poubelle ménagère, je me dis, mais merde, en fait, ce déchet, il va finir soit incinéré, soit dans une décharge à ciel ouvert, en fait. Donc c'est un peu comme on rappelle le principe de on met la poussière sous le tapis et on voit plus rien. Sauf que la réalité, c'est que le déchet, il finit pas dans la poubelle, il y a encore une autre vie derrière. La plupart des déchets, en fait, peuvent être revalorisés, réutilisés et recyclés. Ça permet aussi vachement de réduire le contenant d'une poubelle. Quand on voit entre le recyclage et le compostage, concrètement, on peut aller aujourd'hui. Moi, personnellement, je jette ma poubelle peut-être deux fois par mois. Donc c'est aussi à une sorte de confort en fait qu'on s'offre aussi au fur et à mesure, mais c'est important parce que comme vous le dites, aujourd'hui le plastique est encore de plus en plus présent. Il me semble que c'est par personne par année, c'est 500 kilos de d'ordures qu'on produit en fait par personne. Et ça a augmenté depuis 30 ans quoi, et on n'est pas sur une pente descendante.
Très bien, est-ce que vous vouliez compléter ce...
En fait, l'idée avec le zéro déchet, donc évidemment zéro déchet, c'est un peu un slogan pour identifier notre projet. L'idée, c'est de tendre vers ça. Il y a peu de gens, en fait, comme on voit sur certaines vidéos sur Internet, qui arrivent à produire un bocal de déchets par an. L'idée, c'est de redevenir acteur de sa consommation et de réaliser en fait tout ce qu'on jette et qui pourrait peut-être avoir une deuxième vie. Donc en fait, on voudrait percevoir notre poubelle différemment, pas forcément comme quelque chose à vite à descendre et à ôter de notre vue, mais quelque chose qui est fait d'éléments réutilisables, valorisables, voire upgradables, comme certains designers et créateurs le montrent en fait. À partir de déchets, on peut créer des choses assez intéressantes. Sur le projet, on a aussi des acteurs culturels et on a le collectif Cancan qui a créé des mascottes qui sont animées par des danseurs et faites de choses recyclées et qui sont vraiment très jolies et artistiques.
Comment on fait pour réduire ces déchets? Qu'est-ce que vous préconisez déjà? Quels sont les petits gestes qui font qu'on peut réduire nos déchets?
Alors, moi, je pense que déjà, quand on se retrouve au supermarché, peut-être des fois réfléchir à cet emballage. Est-ce que des fois, je pourrais pas prendre plutôt mon paquet de pâtes, le prendre plutôt en carton qu'en plastique? Enfin, moi, c'est des réflexions que je me fais au quotidien. Il y a aussi, je pense que c'est important aussi d'aller pas à pas. Il faut pas se mettre toute une montagne, c'est-à-dire se réveiller demain, regarder notre maison et se dire oh, mais mince, j'ai du plastique partout en fait, comment je vais faire? Et je pense que c'est vraiment important d'y aller étape par étape, c'est-à-dire demain je me dis écoute, aujourd'hui je vais peut-être m'occuper de ma salle de bain. Voilà, pour les prochains mois, je vais m'occuper au fur et à mesure de ma salle de bain. Je vais peut-être remplacer mon shampoing en bouteille plastique par un shampoing solide qui est tout aussi bien et généralement il y a beaucoup moins enfin c'est mieux aussi au niveau de
la qualité, je pense,
la qualité et aussi le rapport à la santé aussi,
bien
parce
sûr.
Que tout ce qui est produits cosmétiques consommés tous les jours sur nous, allez vous renseigner, mais des fois ça fait peur. Je pense vraiment l'accent de faire pas à pas tranquillement et vous finirez par arriver à un moment donné à des choses qui vous conviennent. Il faut tester, retester. Des fois il y a des choses, j'avais une bénévole qui me racontait qu'elle essayait de faire un savon son savon soi-même, mais il se trouvait que la recette elle a pas forcément fonctionné. Mais c'est pas grave, elle a recommencé, elle a essayé de chercher d'autres solutions alternatives en fait. Et c'est aussi un côté où on peut apprendre à faire des choses soi-même, ce qui est aussi assez valorisant aussi pour soi de se dire j'ai quand même réussi à faire mon petit dentifrice, je fais ma lessive aussi, regarder une lessive c'est pas si compliqué à faire tout seul. Et c'est vraiment par exemple aussi de l'économie quand on voit les familles, moi je vois ma famille, ils sont 4-5 personnes, faire leur lessive eux-mêmes tous les mois, elles gagnent en temps, en énergie, en économie. Et c'est une activité à faire qui est plutôt sympa quoi.
Si Amé Fanny, je vous propose de continuer sur cette thématique, on va parler aussi du recyclage, bien sûr. Mais on va faire une pause musicale avec une musique que vous avez choisie, Fanny. Donc c'est l'artiste Suzanne et le titre c'est Il est où le SAV. Quelques mots sur cette musique parce que le clip est hardin quand même.
Oui, tout à fait. Suzanne est une artiste actuelle assez engagée et qui en fait a été sensibilisée à la question des déchets lors d'une tournée qui l'a emmenée en Chine, je crois, et a décidé sur son texte Il est où le SAV, qui parle de protection de l'environnement, etc., de tourner son clip à côté de Dakar dans une énorme décharge à ciel ouvert où vivent en fait malheureusement des personnes.
Ouais, là justement on parlait un petit peu de nos déchets sous le tapis, elle nous les montre ces déchets, je le trouve très intéressant. Alors désolé, on est à la radio, effectivement pour vous les auditeurs c'est pas simple, surtout si vous êtes en voiture, mais je vous invite d'abord à écouter les paroles parce que Il est où le SAV, donc le service après-vente, c'est un jeu de mots, mais en disant on savait aussi quand même. Donc je vous propose de l'écouter et puis vous regarderez quand vous aurez la possibilité effectivement son clip, et puis on se retrouve tout de suite après pour parler du recyclage. D'ailleurs, ils vont où nos déchets et qu'est-ce qu'on en fait, et puis on donnera d'autres astuces. Allez, à tout de suite.
On a cassé la planète, il est où le SAV? On a cassé la planète et ça tout le monde savait.
Dans la vie il y a des cactus, c'est sur ce même cactus depuis plastique high sur les plages de Koh Lanta, derrière les candidats, c'est pas si idyllique. Y'a des pailles McDo qui sirotent sur l'eau, coca plastique qui flotte sur le Pacifique. Un Capri Sun à la dérive qui finit sur la rive dans la bouche d'une tortue. Ça se réchauffe, ça se réchauffe, ça se réchauffe. La planète à la tête en surchauffe. Ça se réchauffe, ça se réchauffe, ça se réchauffe. La planète à la tête en surchauffe.
On a cassé la planète, il est où le SAV? La planète, ça tout le monde savait. On a cassé la planète, il est où le SAV? On a cassé la planète, ça tout le monde savait.
Y'a comme un air de chicha sur les buildings pékinois. Le smog made in China. Les usines crachent leurs poumons. On est tous au premier balcon pour voir le ciel couleur béton. On mange des glaces en février. Y'a plus de glace sur les glaciers. Les sources polaires vont transpirer. Bulldozer dans les forêts, l'orang-outan est délogé pour la pâte à tartiner. Ça se réchauffe, ça se réchauffe, ça se réchauffe. La planète à la tête en surchauffe. Ça se réchauffe, ça se réchauffe, ça se réchauffe. La planète à la tête en surchauffe.
On a
face à l'euro, le dollar. Un bout de charbon dans une marée noire. Une tumeur qui ne crée que des cauchemars. Mais je me concentre sur ce que je veux donner. Une énergie commune qui peut rassembler. Je m'apprêtais à contacter le SAV. Mes numéros et des vies sur ma ligne.
On a cassé la planète, il est où le SAV?
Si on adoptait une consommation durable et zéro déchet pour cette rentrée, c'est le thème de notre émission L'Onde des Possibles que vous retrouvez sur O2 Radio, sur notre site www.odeuradio.fr ou sur le 91.3. FM. On est toujours avec Fanny Thibert, chargée de communication quartier zéro déchet, accompagnée de Siem Belemarazib, volontaire en service civique à la Maison de la Nature et de l'Environnement Bordeaux-Aquitaine. On parlait des solutions pour réduire nos déchets. On va continuer. Et je crois que vous vouliez parler du compostage, notamment, une des solutions.
Tout à fait, parce qu'en fait, on se rend compte que nos poubelles sont composées à peu près un tiers de ce qui pourrait être du compost. Et donc, commencer son chemin vers le zéro déchet par le compostage, ça peut être intéressant. Déjà parce que du coup, on voit très rapidement la quantité de déchets en moins dans nos poubelles. Et puis, il faut se dire qu'en fait, il n'y a pas forcément besoin d'avoir un jardin pour avoir un compost. Ça peut être aussi un compost partagé entre les habitants d'une copropriété. Ça peut aussi être des solutions individuelles comme le bokashi. C'est un petit compost d'appartement avec des micro-organismes qui fonctionnent très bien. Donc voilà, nous on a des associations qui forment à différentes techniques de compostage, par exemple l'ombricompostage, mais il y a toute cette diversité d'offres qui permet à chacun d'y trouver son compte.
Alors c'est aussi intéressant quand on a un jardin quand même, il faut le rappeler, parce qu'on parle effectivement, il faut trouver son intérêt. Je pense que c'est une démarche qui est quand même importante, de trouver l'intérêt aussi d'aller dans ces démarches de zéro déchet et de consommation durable, parce que finalement c'est très bénéfique, vous l'avez dit déjà, pour l'estime de soi, parce qu'on est fier de réaliser soi-même, et aussi parce que par exemple le compostage c'est intéressant pour nos plantes et notre potager quand on a un jardin. On peut aussi, vous l'avez dit je crois, récupérer son composteur et le redistribuer, vous alliez le dire, vous le disiez en off, CM. Alors oui. Vous allez le dire en on cette fois-ci.
Je disais que même si on n'a pas forcément de jardin, etc., on peut toujours réutiliser ce que le compost nous donne pour aussi revégétaliser les espaces publics en bas des bâtiments, etc. Et du coup, voilà.
Voilà. Alors, on va parler du recyclage. Alors, on va peut-être rappeler, Siem, on le disait aussi en off, mais on va le redire, que le meilleur des déchets, c'est...
Celui qu'on ne produit pas.
Celui qu'on ne produit pas, merci de le dire. Mais malgré tout, le recyclage est nécessaire. Donc, on va voir avec vous, Fanny, déjà, qu'est-ce qu'on recycle ? Comment ça se passe, cette chaîne du recyclage ? Et qu'est-ce qu'il faut faire, les gestes évidents, mais qu'on oublie parfois ?
Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, 35 à 40% des déchets recyclables sont effectivement recyclés. Donc, c'est vraiment peu. Au niveau national, en fait, la loi de transition énergétique se donne des objectifs ambitieux parce qu'elle demande à ce qu'il y ait 65% de déchets d'ici 2025, donc demain. Donc, c'est assez impressionnant. En fait, le recyclage, il est nécessaire, même s'il n'est pas suffisant. Et au vu de ces chiffres, il faut l'améliorer. Et ça passe par le tri à la source. Donc, il faut améliorer notre manière chez nous de trier. Et parce qu'en fait, une fois que ça peut être retrié, ça s'appelle le surtri au centre de tri, mais ça a un coût énorme. Et donc, ça rend pas forcément intéressant le recyclage final. Donc, alors, la difficulté en France, c'est que les règles sont parfois un peu différentes en fonction des villes. Alors, cette différence, en fait, a permis à des projets innovants en matière de déchets d'émerger à certains endroits, mais l'inconvénient, c'est que on s'y perd un peu. N'hésitez pas à consulter le site internet de votre ville, en fait, qui donne en général les règles de tri des déchets. Et puis, l'ancien éco-emballage qui est devenu Citeo a créé carrément une application sur téléphone portable où, en fonction de votre ville, et, est-ce que je vais trier l'emballage de lessive ou de pot de yaourt, en fait, vous avez tout sur l'application sur téléphone, donc n'hésitez pas.
Est-ce que vous avez des astuces ? Parce qu'effectivement, moi, je me pose toujours des questions. J'ai toujours un doute sur ce que je dois trier ou pas. Est-ce que, effectivement, l'emballage qui est autour du lait, par exemple des packs, est-ce que ça se recycle, ça ? Est-ce qu'on le met dans notre poubelle jaune ou notre poubelle, pour certaines d'autres communes, ça doit être d'autres couleurs ? C'est des petites juste là, la radio, deux minutes, ces petites questions bêtes, mais qu'on se pose régulièrement.
Alors, effectivement, la question se pose dès que l'emballage est un peu mixte, dès qu'il y a plusieurs matières à l'intérieur. Donc ça, vraiment, si on a un doute, j'invite les gens à consulter. Après, de manière générale, pour ce qui est plastique, c'est tout ce qui est solide, contenant, bidon, bouteille, etc. Ça, évidemment, ça se recycle. Tout ce qui est beaucoup plus fin, mou, léger, beaucoup moins. On en parlait tout à l'heure, mais il n'est pas forcément nécessaire de nettoyer ces emballages. Dans tous les cas, il y a un nettoyage qui est fait après. Donc ça peut permettre, si on les stocke, d'éviter tout inconvénient, mais ce n'est pas forcément nécessaire.
Quels sont les freins au recyclage aujourd'hui ? Quels sont ces nombreux freins ? Alors, vous parlez de la source, donc on imagine bien que c'est nous, en tout cas citoyens, qui ne recyclons pas assez, donc qui ne trions pas assez nos déchets. J'imagine aussi peut-être le monde de l'entreprise, peut-être aussi les collectivités locales. Comment vous expliquez que seulement 35% des produits recyclables sont recyclés ?
Alors, on parle là des collectivités. C'est un exemple intéressant, par exemple, de l'usage du plastique, du plastique à usage unique qui s'est développé dans les années 60-70, qui n'existait pas forcément avant. Et c'est du tout jetable. Donc, que ce soit dans les cuisines des collectivités, etc., on utilise beaucoup ces choses qui paraissent plus simples à l'usage alors que pas forcément. Et il y a des collectivités qui vont vers l'abandon de ce type de plastique.
Qui n'est pas recyclable ?
En tout cas, la plupart, non. Une grosse partie est jetée.
Donc tous les couverts jetables ne sont pas forcément recyclables, c'est ça ?
Oui.
Très bien. Et est-ce qu'il y a d'autres freins à ça, au fait que qu'on ne recycle pas assez en France, en tout cas ?
Moi, je pense aussi que, comme on le disait, c'est vrai qu'on peut aller s'informer, etc., mais il y a peut-être aussi un manque d'informations, que ce soit peut-être à l'école, ce serait peut-être intelligent d'apprendre aux enfants comment on recycle. L'enfant va ramener ça aussi à la maison, parce que, comme vous le dites, on se perd aussi dans tous les petits logos qu'il peut y avoir sur les emballages. On en parlait tout à l'heure, mais le petit logo avec les deux flèches vertes qui tourne, c'est pas forcément dire que cet objet, ce plastique-là va être recyclé. C'est juste que effectivement l'entreprise a reçu de l'argent pour avoir un éco-emballage, mais il y a peut-être pas de solution à terme pour recycler cet emballage-là. Donc je pense qu'il y a certains flous au niveau du consommateur sur les emballages, etc. Il faudrait peut-être uniformiser toutes ces informations qu'on peut mettre sur un emballage. Et vraiment peut-être axé aussi sur les emballages, de comment je peux vraiment recycler cet emballage-là, en écrivant peut-être justement qu'est-ce que c'est. C'est un étui carton, donc cet étui carton, je peux le recycler. Donc je pense qu'à ce niveau-là, il y a encore du travail et qu'il faut uniformiser en fait.
Alors qu'est-ce qui se recycle le mieux d'ailleurs ? Ça, c'est intéressant ça. Est-ce que effectivement, vous avez dit qu'un emballage plastique et un emballage carton, vaut mieux choisir le carton ?
Bah oui. Je trouve que moi, personnellement, le carton, on ne réfléchit pas. C'est dans la poubelle emballage, carton. Souvent, il n'y a pas aussi de film plastique en plus. Pour moi, c'est une des choses plus faciles. Et le verre aussi. Le verre, vous avez votre petite bouteille de bière, vous la mettez au verre. Vous avez votre bouteille de jus de pomme, vous la mettez au verre. Le pot de confiture, vous la mettez au verre.
Et on est d'accord que le verre se recycle très bien ?
Oui, après, ça a forcément un coût. Donc, le verre, c'est typiquement quelque chose qu'on peut réutiliser avant de jeter. Une bouteille de jus de fruits en verre. Dans certains magasins, épiceries à Bordeaux, on peut redonner comme consigne ou s'en servir pour mettre autre chose comme liquide en vrac dedans. Donc,
moi, je fais partie d'une génération où enfant, je mettais dans les supermarchés ma bouteille dans la consigne. On était contents parce qu'on gagnait 20 centimes de francs. Excusez-moi. Vous prenez ce genre de retour à la consigne, justement, pour le verre ?
Oui, on a au sein du projet des associations, que ce soit Pic Vert ou la consigne bordelaise, qui en fait promeuvent ce mode de fonctionnement. Elle se heurte peut-être à certains obstacles. Ça doit être une politique surtout nationale, la mise en place de consignes par rapport aux process et aux structures qui sont implantées sur le territoire. Mais en tout cas, elles essayent, à leur échelle, de développer des solutions en termes de consignes.
On est actuellement en crise quand même sanitaire, qui est une crise assez importante. On a vu un retour au plastique. On parlera de ces masques. Peut-être un petit mot là-dessus. Est-ce qu'on peut vivre une crise sanitaire écologique de manière écologique, par exemple ? Ça peut être une question.
Alors moi, je pense que oui. Après, il y a forcément des freins. Si on peut avoir la possibilité, par exemple, en entreprise, de porter un masque lavable, le masque lavable, il faut certes en avoir beaucoup, mais... En soi, si vous arrivez à faire en sorte d'en avoir, je sais pas moi, une vingtaine, trentaine, vous pouvez largement faire des tours de lessive et toujours en fait en avoir des propres sur vous.
Fanny me casse la table.
Et moi, je pense que oui. Après, voilà, c'est vrai que je pense qu'avec cette crise, on est du coup plus orienté vers le protéger soi plutôt que protéger, on va dire, l'environnement. Mais je pense qu'on peut faire certains efforts sur certaines choses. Quand je pense à, par exemple, j'ai mon conjoint qui est dans son entreprise. Enedis, une grosse entreprise, c'est des masques jetables et c'est deux par jour par employé. Donc vous imaginez la tonne, etc. Après, je peux très bien comprendre pour ces entreprises que c'est plus rassurant en fait que l'employé ait des masques chirurgicaux qui sont changés toutes les 4 heures. Mais c'est vrai qu'il faut peut-être penser aussi à ce penchant-là, c'est que c'est aussi, je sais pas combien de milliers de masques qui sont jetés toutes les semaines. Et ça va être, comme on le dit depuis le début de l'épidémie, ça va être catastrophique. Enfin, encore aujourd'hui, vous regardez un peu par terre. Tous les jours, j'en vois peut-être au moins 5 par terre des masques. Donc il y a aussi, il y a ce problème qui est quand même assez conséquent et qui, je pense, va falloir réfléchir à certaines solutions à long terme, puisque c'est pas prêt d'être fini.
450 ans peut-être pour que ça se dégrade un masque. Voilà, donc c'est important, c'est encore plus important aujourd'hui qu'on reparle de ce sujet qui est donc vraiment le recyclage, le problème de nos déchets. Hein. C'est un problème. Voilà. D'autant plus important qu'aujourd'hui, on voit un retour au plastique. Peut-être juste le redire que ça ne nous protège pas plus ce plastique, notamment quand on voit le plastique sur les aliments, sur les fruits et les légumes, qui est revenu en force, qui à la fois nous coûte cher, parce que c'est forcément, on le retrouve sur le prix d'achat, et ne sert à rien. Et il y a des fois des aberrations, on va le dire. Ça tourne sur les réseaux sociaux, et tant mieux, quand on voit des kiwis épluchés avec un plastique autour et puis un bâton de sucette. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Peut-être vous voulez réagir à ça, vous l'avez peut-être aussi vous remarqué. Je ne sais pas si comment vous réagissez à ça.
Comme vous dites, je trouve ça totalement aberrant parce que, quand vous voyez la plupart de ces fruits, en fait, il y a déjà une peau, sachant qu'on ne mange généralement jamais la peau, que ce soit d'un kiwi, d'un melon, d'une banane. Il y a quand même, la nature est bien faite et des fois, il faudrait peut-être commencer à l'écouter et à s'intéresser à comment elle fait les choses pour mieux vivre avec elle, en fait. Enfin, il y a des choses qui sont là et qui sont très bien comme ça aussi.
Et d'ailleurs, juste rappeler que tous les scientifiques s'accordent que le virus résisterait mieux sur le plastique que sur la peau des fruits et des légumes. Donc ça, c'est peut-être une chose à rappeler quand même. Et souvent, dans cette démarche de transition, parce qu'on est nous-mêmes en transition, il faut changer nos modes de vie et ça demande réflexion. Et la plupart du temps, à chaque fois que moi, je reçois des gens qui viennent, donc plutôt qui sont experts là-dessus, me parlent toujours de bon sens, en fait. C'est de revenir à du bon sens. réfléchir. Mmh. Effectivement, la nature est bien faite. S'il y a une peau sur, sur le fruit, c'est qu'elle doit être utile. Mmh. Voilà. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? C'est souvent du bon sens, finalement.
Mais en fait, moi, je pense qu'au-delà du zéro déchet, de ça, c'est aussi, en fait, c'est... réfléchir à notre rapport aux choses, à la consommation. Pourquoi j'achète ci, pourquoi j'achète ça, c'est vraiment essayer de reconscientiser nos choix au quotidien. C'est de dire vraiment, aujourd'hui, comme je donnais l'exemple avec l'emballage, peut-être que au lieu de choisir mon emballage plastique, je vais peut-être prendre mon emballage carton parce que je sais qu'aujourd'hui, au niveau de l'environnement, y a des choses à faire. Et c'est aussi remettre en lien ce que l'on sait et les comportements qu'on a. Parce que quand on sait que c'est le réchauffement climatique, tout va mal, on est dans une grande crise écologique, oui, ok, ça on le sait, mais du coup, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Eh ben, il faut reconscientiser nos choix, réfléchir à qu'est-ce qui n'est plus valable aujourd'hui, qu'on a fait pendant des années, mais qui n'a plus aucun sens aujourd'hui. C'est aussi... je pense, c'est d'ailleurs pour reconscientiser les choix, il y a les 5 R du zéro déchet aussi qui peuvent aider. En fait, c'est le premier, c'est refuser. Donc refuser, par exemple, de prendre la touillette en plastique avec votre café, c'est refuser le papier craft de votre petit pain au chocolat. Qu'en fin de compte, si vous avez un petit mouchoir, vous pouvez prendre aussi avec vous. Enfin voilà. Il y a réduire aussi, donc apprendre aussi à réduire, donc ça rejoint un peu ça, reconscientiser nos choix, se redemander si on a vraiment besoin de ça, aller dans les magasins, et des fois ça nous est tous arrivé d'avoir des achats, on va dire, compulsifs, on l'achète et puis en fait 2 mois après on se dit bon en fait ça m'a pas tellement servi, c'était peut-être sur le coup, et il y a plein de solutions où on peut se tourner vers l'occasion, vers aussi l'emprunt. En fait, pour subvenir à nos besoins. En fait, par exemple, moi, je voulais m'acheter un hachoir. Au lieu d'aller au petit Darty ou à Carrefour acheter mon hachoir à je sais pas combien, je me suis dit, tiens, il y a sûrement quelqu'un qui achète, enfin, qui vend sur le bon coin. J'ai trouvé mon petit hachoir à 10€ neuf, quoi. Enfin, oui, voilà. Ouais. C'est plein d'astuces comme ça. Donc, il y a refuser, réduire, réutiliser, rendre à la terre. Et le cinquième, refuser, réduire, rendre à la terre et réutiliser.
Non, comme vous l'avez déjà dit.
Ouais, je me souviens plus du cinquième, excusez-moi. Avec
bon, allez, on le trouvera.
Vous irez aller chercher ça. Vous...
Donc les 5 R, en fait, c'est mémotechnique. Ça nous permet effectivement de se le rappeler d'ailleurs. Effectivement, quand vous dites refuser, de se dire, c'est une démarche. Ça demande...
C'est des habitudes à prendre aussi.
C'est des habitudes à prendre et une vraie démarche. Oui, Fanny.
J'ai une proposition en termes de refuser dans les solutions qu'on peut proposer. On pense au stop pub, en fait, parce que c'est vraiment une action très simple. On met un autocollant sur notre boîte aux lettres et on économise en moyenne 31 kilos de prospectus par foyer et par an. Donc ça peut être une première action assez simple et où on voit les résultats très rapidement.
Très bien, moi je l'ai adopté, en plus on est mieux, hein. On se sent mieux finalement parce que
on est pas tout le temps en train de se plaindre de toutes ces pubs qu'on a. Et...
Allez, on arrive au terme de cette émission. D'ici quelques instants, on va retrouver la chronique de Nina. Nina Bruno, qui je rappelle est auteure illustratrice, qu'on retrouvera pour le journal, si vous nous écoutez ce jeudi, on la retrouve dès demain pour notre journal, puisqu'elle a publié un autre livre sur les expressions françaises. Donc c'est souvent plutôt des livres en destination. Des albums jeunesse, hein, destination des enfants. Et Nina, elle nous propose donc pour cette émission L'onde des possibles depuis l'année dernière, une chronique où elle répond aux questions des enfants. Avant de lui laisser la parole, Fanny et Siem, peut-être nous rappeler les informations pratiques concernant la maison de la nature et de l'environnement. Juste aussi des questions quand on est citoyen, habitant. Je pense à mon ami Jacques Meunier qui va nous écouter ce soir, qui est donc un citoyen impliqué sur le quartier de Ravon à Florac, et il aimerait faire ce type de projet quartier zéro déchet. Comment on fait pour vous contacter ?
Alors ça, c'est une très bonne chose parce qu'on a aussi des bénévoles en interne sur le projet qui sont motivés par ce genre de reproduction, en tout cas de reproduire un petit peu ailleurs ce type d'initiative. Pour nous contacter, il y a plein de manières différentes, par email, donc ça peut-être qu'on pourra le mettre sur le site, sur notre site internet, il y a un formulaire de contact qui est assez complet. Sur les réseaux sociaux, on répond aussi. Vraiment, vous pouvez nous trouver assez facilement.
En tapant, j'imagine, Maison de la Nature et de l'Environnement Bordeaux.
Voilà, et on a clairement un site internet spécifique pour le projet qui s'appelle monquartierzz.org.
Est-ce que c'est possible, comment ça se passe, si effectivement il y a des citoyens engagés, quelle démarche vous contactez en premier, mais là on va le dire vite fait, est-ce que c'est possible de reproduire ce projet ailleurs? J'imagine qu'il faut faire une demande de projet, un dossier à remplir.
Oui, c'est sans doute possible. Il y a, alors, soit à cette échelle-là, si vaste, surtout la question des zéro déchet, mais il y a aussi des appels à projets des collectivités à une moindre échelle sur des composteurs partagés, sur des frigos zéro gaspille. Donc, voilà, il faut se tenir informé sur les sites des collectivités et de nos partenaires et vous trouverez toute l'information.
Très bien. Siam, un dernier mot?
Oui, moi j'aimerais dire que je pense que aujourd'hui c'est important, comme on l'a dit depuis le début, de vraiment commencer à se dire bon ok, on sait que c'est tout va pas bien, mais il y a vraiment des actions qui peuvent être faites chacun au quotidien, à savoir que si aujourd'hui tout citoyen était un très bon éco-citoyen, on pourrait permettre de réduire à 20% les gaz d'émissions à effet de serre. Donc c'est peut-être que 20%, mais c'est des 20% qu'on a besoin. Et moi, je me dis que si demain le citoyen devient éco-citoyen, c'est aussi un éco-citoyen qui fait partie d'une entreprise, c'est un éco-citoyen qui fait partie d'une collectivité, et ainsi de suite.
Peut-être un futur politicien.
Voilà, peut-être un futur politicien. Et c'est exactement ce que je voulais dire.
Très bien, merci en tout cas à vous deux d'être venus pour cette émission L'Onde des Possibles. Allez, tout de suite, je laisse donc la parole à Nina pour sa chronique et on conclura juste après.
Dis Nina, c'est une question pour toi.
Bonjour Nina.
Bonjour Sandrine.
Alors je crois qu'aujourd'hui il y a Gabriel, 4 ans et demi, qui a des questions pour toi Nina.
Dis Nina, comment on peut transformer mon goûter en goûter écolo?
Oh, mais c'est une question qui me plaît, ça, Gabrielle. Comment transformer ton goûter? Eh bien, écoute, je vais te donner une réponse qui va faire du bien à notre planète, mais à ton corps aussi. Et je suis sûre que ton goûter sera super délicieux. Mais avant ça, j'aimerais savoir ce que tu prends pour le goûter.
Je prends un verre de jus, une part de gâteau et une compote avec un bouchon en hélice d'hélicoptère.
Mais c'est un super goûter, tout ça. Alors, tout est parfait. Le verre de jus, c'est très bien. La part de gâteau, surtout si elle est faite maison, c'est super. Elle sera meilleure pour la santé qu'un gâteau acheté en supermarché. Par contre, pour ta compote, avec ce fameux bouchon en hélice d'hélicoptère, alors là, c'est pas top top. Parce que sais-tu que cette compote-là pollue énormément la planète? Et oui, on ne peut pas la recycler.
Mais qu'est-ce qu'on peut faire?
Alors évidemment, le plus simple serait de préparer sa compote et de la mettre dans un petit pot en verre. Mais le verre est très fragile et aussi dangereux pour les enfants. Donc j'ai fait mes petites recherches et figure-toi Gabrielle que j'ai découvert des gourdes de compote comme celles que tu aimes tant, sauf que celles-ci sont écologiques, et oui, parce qu'elles sont réutilisables. C'est-à-dire que tu peux y mettre la compote de ton choix ou même un yaourt à l'intérieur et quand tu auras fini, cette compote sera lavée puis pourra à nouveau être réutilisée avec une nouvelle compote de ton choix. Donc maintenant Sandrine, je vais m'adresser à vous ainsi qu'à nos auditrices et à nos auditeurs en vous donnant un peu plus d'informations sur ces fameuses gourdes réutilisables. Donc j'ai déniché 3 marques qui m'ont l'air d'avoir un très bon rapport qualité-prix. La marque Squeeze, la marque Happy Squeezy et la marque Squishy. Ce sont des gourdes qui sont souvent vendues par lot de 7 à 8 et qui ont un prix entre 18 et 28 euros. Donc on peut les trouver en ligne sur des sites de magasins éco-responsables ou bien aussi dans des épiceries en vrac et toutes sortes de magasins bio. Ces gourdes sont souvent réutilisables entre 50 et 150 fois, mais quand elles ne le sont plus, j'ai une bonne astuce que j'avais piquée à un directeur d'école, c'est remplir cette fameuse petite gourde d'eau, la mettre au congélateur et puis ensuite ça devient une poche de glace dont on peut se servir après les chutes et les petits bobos. Voilà Gabrielle, j'espère que j'ai répondu à ta question et surtout je te souhaite un super goûter écolo.
Dis Nina, c'est une question pour toi.
C'était donc la chronique de Nina, donc vous avez maintenant toute l'astuce pour un goûter un peu plus écologique et responsable, voire zéro déchet. Je redonne la parole à Fanny Thibert, chargée de communication, quartier zéro déchet, juste pour nous donner votre programmation à venir.
Voilà, donc je vais vous donner quelques dates. Donc le 10 septembre, on organise un atelier sur la consommation éco-responsable en supermarché. Donc n'hésitez pas à vous inscrire via notre site internet. Le 12 septembre, on organise l'inauguration de notre deuxième plateforme de compostage. Donc, on en avait une sur la place Calix Camel et il y en aura une sur le parc Pinson. Et enfin, une dernière date, le 17 septembre, c'est notre premier rendez-vous mensuel avec Échange Nord-Sud sur le thème du gaspillage alimentaire.
Merci Fanny Thibert, merci à vous. Donc on retrouve cette émission le lundi 7 en rediffusion, lundi 7 à partir de 16h sur le 91.3 FM. Et si vous êtes plutôt du matin, ça sera le mercredi 9 septembre à partir de 9h. Je vous souhaite un très bon moment à l'écoute d'Eau2 Radio. Vous retrouvez tous nos programmes aussi sur notre site www.eau2radio.fr. Et au mois prochain pour une autre émission L'Onde des Possibles.